Athènes, dominaient les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal de vivre. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, ma commission de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'Écho des Guerriers de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, les dernières émissions de l'Égrégore étaient consacrées surtout aux Tunisiens qui venaient de Lampedusa et qui étaient en particulier sur Paris, plusieurs dizaines, voire des centaines. Ce soir, on n'a pas d'autres nouvelles, si ce n'est qu'ils s'occupent toujours un gymnase. Je ne sais plus dans quel arrondissement c'est, je crois le 11e peut-être.
Ouais, c'est dans le 11e.
C'est dans le 11e. Mmh. Que les négociations au niveau de la mairie sont au point mort par rapport à leur hébergement. Quant à leurs papiers, alors là, ça ne regarde pas la mairie, mais ça regarde la préfecture de police de Paris. Là, c'est pareil. Là, je crois que bon, on en recousera, mais on n'a pas d'informations vraiment fraîches par rapport à ce qui se passe sur Paris. Par contre, on a des informations au niveau de l'immigration, concernant les arrivées massives. J'exagère en disant massives, hein, puisqu'on dit à peu près, grosso modo, que depuis les événements de Tunisie et de Libye, il y a eu environ 35 000 personnes qui sont arrivées en Italie, ce qui est faible par rapport aux centaines de milliers de gens qui errent actuellement en Afrique et dans d'autres pays.
Oui, et puis en plus, le problème des Tunisiens semble poser un problème à un certain nombre de pays européens, dont la France. Faut quand même savoir que, avec ce qui se passe, la Tunisie, qui est un pays de 6 millions d'habitants, accueille actuellement 300 000 réfugiés qui viennent de Libye.
Oui, hein, tout à fait. Mmh, voilà. Alors, il y a tous les jours, on peut dire, des embarcations qui arrivent, qui débarquent donc en Italie, à Lampedusa, sur l'île, qui partent bien souvent de Libye. Alors j'ai des chiffres qui sont absolument importants sur le nombre d'embarcations, pas sur le nombre de personnes qui sont dedans, puisque des fois il y en a que 9, des fois il y en a 15, des fois il y en a 260. Mais ce qu'il faut savoir, c'est d'après l'ONU, hein, c'est pas donc des vilains gauchistes comme nous qui vous parlent, d'après l'ONU via le HR, depuis fin mars, il y a 12 000 personnes qui ont quitté les côtes nord-africaines, dont 1200 ont trouvé la mort, 10%. Mmh. Ce qu'il faut, c'est quand même important, et c'est loin des négligeables, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, que dire encore par rapport à cette situation-là, si ce n'est que la France fait tout pour que les accords de Schengen soient remisés, tant que la situation n'est pas claire par rapport à la Tunisie. Quand je dis situation claire, c'est-à-dire que la France fait tout aujourd'hui pour négocier avec le nouveau pouvoir tunisien, le fait que ce nouveau pouvoir puisse faire ce que faisait la dictature avant. Hein, je pense qu'on l'avait largement dit sur cette antenne ce qui se passait avant sous les dictatures de Ben Ali ou de ce qui se passait en Libye, et que maintenant, bon, bah, étant donné qu'en Tunisie il y a un nouveau pouvoir, il faut que ce nouveau pouvoir soit à la botte, bien évidemment, de l'Occident et en particulier de la France, pour gérer justement, pour empêcher que ces gens viennent ici.
Alors tu disais les accords de Schengen, mais les accords de Schengen, ils n'ont pas arrêté d'être modifiés depuis qu'ils existent. Hein. Et là, la France n'est pas la seule à vouloir en remettre en...
Il y a Danemark, ça.
Oui. Alors, c'est pas la même chose. Le Danemark, eux, ils rétablissent à leurs frontières des douanes. Puisque en fait les postes de douane avaient été supprimés, eux ils les remettent pour que les bon il y a toujours des contrôles hein, de douaniers, mais il y avait plus de lieux fixes, ça pouvait se faire n'importe où. Eux ils remettent en place la bonne vieille douane. Voilà, c'est pas une modification qui apporte grand chose. Voilà, mais simplement ils veulent que ça soit visible, alors que là effectivement on avait supprimé tous les postes de douane quoi.
D'accord. Alors, on va maintenant parler un peu de fraises. Alors, vous allez me dire quel est le lien entre l'immigration et les fraises, même s'il y en a un sacré.
Oui. Hein,
c'est les fraises que vous pouvez voir dans tous les supermarchés en France. 83 000 tonnes de fraises qui viennent d'Espagne, importées d'Espagne, qui nous inondent depuis le mois de février. Hein. Et c'est bientôt fini, hein, ces fraises d'Espagne, puisque ça s'arrête en juin. C'est incroyable, hein, c'est-à-dire que le consommateur peut les acheter à 2 euros le kilo. Ce sont des fruits, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des fruits, puisque effectivement c'est bien rouge, mais ça a très peu de goût. Et on s'imagine bien, venant d'Andalousie, il y a 1500 kilomètres, donc dans des camions de 10 tonnes, et on s'imagine bien que toutes ces fraises ont été cueillies toutes vertes. Mais en piochant un peu plus, on apprend beaucoup de choses grâce à un article de Politis du jeudi 12 avril 2007. Oui, c'est vieux, c'est vieux. De Claire-Marie Vadreau, qui avait fait à cette époque-là un très bon article et qu'on peut reprendre aujourd'hui, qui est vraiment très instructif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces camions font, il y en a 10 000, 16 000 par an. Ils font un parcours valant sur pesant de cacahuètes ou sur pesant de fraises, hein, puisque ça représente 16 000 camions à 1500 km, j'imagine, vous imaginez le gasoil que ça peut bouffer. Les gaz à effet de serre, etc., qu'on nous bassine souvent. Mais là, pour les fraises, ça gêne pas le capitalisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la quasi-totalité pousse dans le sud de l'Andalousie, sur d'ailleurs les limites d'un parc national qui est bouffé de plus en plus par ces fraisiers, par ces patrons espagnols qui embauchent donc une main d'œuvre marocaine, soit clandestine, soit sans papier, soit des gens qui ont un statut, mais un statut complètement précaire. Ils bossent quelques mois, ils doivent repartir au Maroc ou aller ailleurs se faire exploiter en Espagne, toujours dans l'agriculture.
Ah bah en Andalousie, ils ont de quoi, parce que hein, c'est.
Il n'y a pas que les fraises.
Hein.
Alors ce qu'il faut, il y a eu une enquête qui a été faite par le VVF France. Alors on pourrait penser que cette enquête se limitait aux trucs écolo. Non, il n'y a pas que les trucs écologiques qui sont abordés. Il y a aussi les trucs humains, au niveau justement de cette main-d'œuvre marocaine, au niveau aussi du fait que, eh bien, il y a dans cette main-d'œuvre une explosion de maladies pulmonaires, de maladies de la peau, qui est liée bien évidemment à tous les traitements que subissent ces fraises. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que en plein été, à partir de, comment dire, d'août, septembre, ils vont mettre ces nouveaux plants de fraisiers dans les frigos, pour faire croire à la fraise, pour faire croire à ses plants que c'est l'hiver. Et ils vont les ressortir après pour que ces fraises produisent à plein pot au mois de février-mars. Voilà, déjà les premières manipulations. Entre-temps, la terre sableuse est nettoyée, stérilisée, et la microfaune qui est détruite sera détruite avec le bromure de méthyle, quelque chose de pas bien sympathique, et aussi le chloropicrine. La chloropicrine, c'est du chlore et de l'ammoniac. Mmh. C'est ça qui fait très très mal aux travailleurs saisonniers de cette partie. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que peu de gens sont au courant de tout ça. Il y a peu de gens qui s'en soucient. Surtout que la plupart des producteurs de fraises andalouses vont maintenant lorgner directement sur le Maroc. Ils voudraient bien produire au Maroc. Et maintenant, il y a même des projets où ils voudraient produire comme les pommes. Il y a des pommes maintenant qui sont produites en Chine et qui vont nous arriver massivement dans tous nos étals des supermarchés. Alors, bien sûr, la saison est terminée au début de mois de juin. Le scandale, c'est qu'un plant de fraises, bon, normalement, ça dure plusieurs années. Là, non, ça ne fera qu'une seule saison. Tout sera détruit après. C'est quand même assez incroyable. Pour faire en sorte que ça un peu, on essaye de modifier un peu, comme un OGM, on essaye de modifier un peu le comportement de ces plants de fraises. Alors que dire aussi, si ce n'est que il y a au niveau de la faune là-bas, au niveau de l'Andalousie, il y a eu quand même 2000 hectares de forêts qui ont été détruites pour foutre des plants de fraisiers partout, que ça touche, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute une partie d'un truc où il y a énormément d'un parc national de Donana, je connais pas, c'est un parc national là-bas au sud de l'Andalousie qui est de plus en plus bouffé d'une manière illégale, mais ça apparemment les producteurs s'en foutent. Et il y a disparition des oiseaux migrateurs, il y a disparition de beaucoup d'espèces, en particulier les lynx qui existaient dans le coin, et tout ça disparaît dans un truc complètement pollué et complètement incroyable.
Alors, donc en plus, quand on sait quel est le climat de l'Andalousie, il faut arroser.
Ah, il faut arroser, alors bien évidemment, j'ai oublié l'essentiel.
Ah oui. Hein,
c'est que l'eau est pompée partout, ce qui fait qu'il y a une désertification terrible de tout le parc national d'ailleurs, et qui est galopante, et ça change beaucoup la donne au niveau de toute l'écologie du système, tout l'écosystème.
Ouais. Alors donc on a la même chose hein, au niveau d'un certain nombre de légumes que vous avez tout au long de l'année qui arrivent frais. Alors pareil, la plupart sont fabriqués en Andalousie, et ils s'arrangent pour qu'il y ait de 2 à 3 productions au cours de l'année.
Au cours de l'année.
Voilà.
Ouais.
Donc dans des immenses serres, etc. Donc où on emploie plein de produits chimiques, des insecticides, des pesticides, etc. C'est exactement la même chose au niveau des légumes qu'on a régulièrement dans les étals des supermarchés, entre autres.
Ouais.
Et donc là, en plus, cette année, vu le climat qu'on a actuellement, les fraises qui sont fabriquées en France entrent en concurrence avec les fraises espagnoles, puisque habituellement il y a un décalage, et là
les fraises françaises généralement arrivent sur le marché en mai-juin. Là elles sont quand même sur le marché depuis
Donc ce qui fait que effectivement les prix des fraises espagnoles ont chuté, mais aussi les prix des fraises fabriquées en France dans des conditions un peu moins dégueulasses,
mais toujours tout aussi dégueulasses tout de même.
Oui.
Parce qu'on apprend que bon, il y a autant de produits chimiques, il y a autant de gens qui se font exploiter.
Oui, c'est
une autre échelle par rapport à l'Andalousie. C'est moins important qu'en Andalousie, puisque je vous dis quand même, il y a 83 000 tonnes de fraises d'Andalousie qui sont arrivées en France. Je ne vous parle pas de tous les légumes dont tu évoquais tout à l'heure.
Mmh.
Et ce n'est qu'en France. Je pense qu'en Belgique, je pense que dans tous les pays, en Allemagne, en Angleterre, c'est à peu près la même chose.
Hein. Oui, oui.
Alors, tous ces camions, hein, c'est énorme. Hein, ça représente 16 000 camions rien que pour la France. 16 000 camions en quelques mois de 10 tonnes. Hein, bon, ça a un coût terrible, ça. C'est scandaleux. Enfin, je dirais pas...
Oh, mais non, mais
c'est ce qu'on appelle la mondialisation.
Oui, c'est comme les yaourts qui sont produits à un endroit, qui sont emballés à un autre, et, qui font bientôt le tour de la Terre pour revenir hein, chez le consommateur.
Voilà, et comme les pommes qui vont être produites en Chine et qui vont nous arriver toutes fraîches dans le supermarché du coin.
Ouais, non, mais le problème c'est que maintenant on trouve n'importe quel fruit et légumes hors saison dans les supermarchés.
Parce que ça existait avant. Alors ça s'est démocratisé, c'est moins qu'on puisse dire. Mais il faut voir démocratiser entre guillemets, c'est-à-dire que bon, beaucoup de gens peuvent se les payer, même si la plupart du temps, faut le dire aussi, c'est dégueulasse. Hein, dire ça sent rien. Enfin, voilà, j'ai pas goûté ces fraises venant d'Espagne, mais je me doute rien qu'en les regardant que de toute façon, ça doit être comme les tomates. Les tomates, les bonnes tomates, et dans les supermarchés, faut pas y compter. Hein.
Cette année, je sais pas pourquoi, elles ont un peu plus de goût qu'habituellement, mais c'est vrai que c'est des fraises qui généralement n'ont aucun goût. Hein, et puis ce que tu disais, par exemple les tomates, c'est, mais quel que soit le lieu de production, hein, sauf quand vous allez en plein champ les récolter, tous ces fruits et légumes, enfin des fruits puisque la tomate est aussi un fruit, c'est cueilli vert et ça mûrit.
Dans les camions.
Dans les camions, caisses, voilà. Hein.
Voilà. On fait une pause musicale ? Allez.
Estime Patrick et Talia va. Sera prima che si navaghi. Tracci tanchi non era soppi cavagliari, piangeva su cori, sfiarumari. A chi pomaro resce pura e pudrisi. Nasci tu non uomo, thank you.
patrie che taglia umma. Ora che non c'è più i ciururi sargiri, tu resta gatto, noi o piscia travagliari. Visti me patri salutar umari. A chi pumaro esce pura e pudri signo, conosci tu non uomo. Conosci tu non uomo.
On va parler un petit peu d'antinucléaire, en particulier d'un procès qui a eu lieu, un jugement qui a été plutôt, le procès avait eu lieu avant, un jugement à la Cour d'appel de Reims qui a été rendu le 5 mai dernier, où Michel Guérit passait. Michel Guérit, c'est un militant contre les déchets nucléaires, en particulier dans la région de Soulaine.
Qu'on a déjà eu plusieurs fois l'antenne.
Et là, il avait été condamné en première instance pour menace de mort, c'est ça ? Paraît-il, hein. Il avait été condamné à une peine de prison, 3 mois de prison avec sursis en première instance, alors que le procureur c'était, demandait qu'un seul mois.
Ouais, c'était pas tout à fait une menace de mort, c'était, il avait dit au maire de deux communes qui, dans un premier temps, avaient accepté une nouvelle poubelle nucléaire sur les territoires de l'Aube, qu'il fallait faire comme en 1789, qu'il fallait brûler des détruire des bastilles, et donc là, c'était de brûler des mairies.
Ah d'accord, c'est vrai, je me souviens maintenant. Ouais. Alors c'était la mairie d'Ausson et la mairie de Parles-et-Chavanges.
Voilà, c'est ça.
Bon, alors finalement, à Reims, ça s'est mieux passé. Puisqu'il a été condamné seulement à une simple amende de 3 000 euros, et j'ai dit seulement, c'est parce que c'est eux qui le disent, c'est lui qui le dit, hein. 3 000 euros, c'est quand même beaucoup, et 600 euros de dommages d'intérêt pour la maire de Parles-et-Chavanges. Il n'y avait rien, rien eu pour le maire d'Ausson. Alors apparemment Michel Guérit était content. Il est tellement content qu'il se demande pourquoi. Je ne sais pas si au niveau de la justice on peut dire pourquoi. Mais lui, parmi ces les questions qui se posent, il y a des trucs qui me font sourire et qui d'ailleurs indiquent très clairement les divergences qu'on peut avoir au niveau politique avec lui. Il dit entre le jugement troyen où il avait été condamné donc très lourdement à 3 mois de prison avec sursis, et celui de l'appel de Reims, le militant, lui, a eu une attitude, paraît-il, condamnable, mais ça a été un sérieux candidat au Conseil Général dans le canton de Soulaine, soutenu par Europe Écologie Les Verts, et il se pose la question, est-ce que cette attitude citoyenne a été prise en compte? C'est un peu n'importe quoi, c'est moins qu'on puisse dire. Alors ensuite, peut-être, là, il dit une chose qui est plus intéressante, y a-t-il eu un effet Fukushima dans les analyses des juges? Ça, pourquoi pas, hein, c'est peut-être vrai. Alors justement, je crois que par rapport à ces dernières nouvelles qu'on peut avoir du Japon, il y a des choses qui passent complètement sous silence aujourd'hui, hier, tout le week-end, parce qu'il faut dire que on parlait de la braillette de DSK et pas du tout les informations. C'était terrible ce week-end. C'était vraiment lamentable. Et ça continue d'ailleurs de plus belle. Quand on sait qu'il s'agit quand même du patron du FMI, nous on aurait tendance à dire on s'en fout, et puis que il y a autre chose à dire au niveau des informations. Alors je crois que tu as eu des informations par rapport au Japon.
Oui, alors donc apparemment ils sont réussis à entrer et à aller voir un peu ce qui s'était passé dans la centrale numéro 1, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire depuis le début. Et donc, les antinucléaires avaient dit depuis longtemps, et il y a un certain nombre de personnes, même pas antinucléaires, qu'il y avait eu fusion du cœur du réacteur, maintenant est reconnu par TEPCO. Il y a plus de 50% du cœur du réacteur qui a fondu, qui a percé la cuve. Bon, après, non, c'est pas plus. Et donc, là, ils sont sur les trucs, les centrales numéro 2 et 3, ce qui posait aussi d'énormes problèmes, où on nous disait en arrosant, on refroidissait le cœur du réacteur, et apparemment, donc, il n'y a plus de... Les barres ne sont plus dans l'eau, et donc ils risquent de découvrir la même chose, une fusion. Donc je vous rappelle, la fusion, c'est l'accident qui s'était produit aux États-Unis à Three Mile Island, dans les années 1977-78, ouais. Hein, et donc qui peuvent avoir des conséquences énormes. Donc s'il y a une fusion complète, donc ça peut rentrer dans la Terre et jouer un peu le rôle de bombe atomique à retardement au niveau du sous-sol. Voilà.
Voilà. Alors voilà, bon, on va peut-être nous faire une pause musicale.
Mais comme j'ai causé, j'ai pas encore eu le temps de la caler, alors je vais t'en caler une autre.
Ok.
Les vieux sont sales et mal baignés. Ils voient plus clair et coulent du nez. Leurs ongles noirs et mal taillés agrippent leurs cannes, les doigts noués. Ils ont tous l'air de s'emmerder. Regardent les autres d'un air niais. Bien qu'ils se permettent de juger. Pour eux déjà, les dés sont jetés. Quand ils radotent, vous écoutez. Pour répondre, faut articuler. Bien qu'ils comprennent tout à côté, faut faire semblant s'intéresser.
Les vieux.
Ne sont rasés. Qu'est-ce qu'il a grandi, mon bébé? Oh mémé, pense à mon billet. Un jour peut-être je serai âgé et j'en ferai plus pour emmerder ceux qui auraient jamais constaté qu'un vieux croûton trempé dans le thé a meilleur goût qu'un pain congelé.
Les vieux. Les vieux. Les vieux. Les vieux.
Encore un contrat de radé, c'est pas une confra guinchée. Les mamies aux cheveux violets au rambal de l'UMP. Encore un carreau de cassé, v'là le vitrier qui passe, et qui c'est qui va rager? Encore nous, c'est dégueulasse!
Les vieux, les vieux, les vieux, les vieux,
c'est dégueulasse!
On va parler un petit peu maintenant du fichier social SIAO. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est les services intégrés de l'accueil et de l'orientation. C'est, pour ceux qui connaissent un petit peu le système, c'est les 115 en question, où quand quelqu'un se retrouve sans logement, pour X raisons, eh bien les travailleurs sociaux essayent de téléphoner au 115 pour le placement de ces gens, quand il y a des places disponibles, puisque il n'y a pas plus de places disponibles aujourd'hui qu'hier et que demain. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ces services intégrés de l'accueil et de l'orientation, ça permet une centralisation, effectivement, des offres et des demandes au niveau d'un département, puisque ça se passe au niveau départemental, et que actuellement, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas qu'une question d'efficacité, c'est aussi une question de fichage, puisque maintenant, ces nouveaux SIAO fichent les demandeurs dans un immense répertoire national informatisé, nominatif, qui est en train d'être créé actuellement, département par département. Actuellement, les fiches en question sont encore bien souvent départementales, ce n'est pas encore uniformisé. Mais il y a, par exemple, on vient d'avoir la fiche d'évaluation de Saône-et-Loire, qui vaut son pesant de cacahuètes. D'ailleurs, s'il y a un auditeur qui veut la confirmation, eh bien, on peut lui envoyer une copie. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça a donc été rendu public par les travailleurs sociaux. Alors, il s'agit d'un questionnaire de 9 pages qui doit être rempli par un travailleur social. À noter que dans un grand élan d'humanisation, ces questions peuvent être posées par téléphone par le travailleur social qui oriente. Bien évidemment, dans l'identité du demandeur, il y a une question sur la nationalité. Si c'est une personne étrangère, il faudra donner la nature du titre de séjour et les dates de sa validité. Rappelons qu'au niveau de la loi, au niveau de la situation administrative, elle ne doit pas intervenir. Quelqu'un qui est sur le territoire français, par exemple, et qui se retrouve sans papier et qui se retrouve sans logement, qui est sans logement et sans papier, eh bien, peut avoir affaire, effectivement, et pris en charge par le 115. C'est quand même quelque chose qui est difficilement appliqué d'ailleurs, mais qui existe encore chez nous, comme au niveau de la scolarisation des enfants d'ailleurs dont les parents sont sans papier. Alors rappelons un peu donc, après ce rappel, en page 3 donc de ce document qui fait 9 pages, l'État s'intéresse à la situation financière du ménage. Le ménage est-il endetté? A-t-il un dossier sur endettement? Quelle est la nature de ses dettes? Le ménage a-t-il une mesure de protection juridique? Laquelle? Tout ça rempli par le travailleur social, hein, coordonné du mandataire judiciaire. Ça, c'est la page 3. En page 4, après s'être intéressé à la situation professionnelle du demandeur, place à sa situation au regard de la justice. Le ménage sort-il d'incarcération? Si oui, durée et lieu d'incarcération. Le ménage bénéficie-t-il d'un suivi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP. Dans le cadre de violences intrafamiliales, y a-t-il eu dépôt de plainte, etc., etc. D'accord? Alors quand je parle de ménage, ça peut être pour une personne seule. Hein. Ça peut être pour un couple avec enfant ou sans enfant, mais aussi une personne seule. En page 5, on passe à la situation du demandeur au regard de la santé. Tout y passe, hein. Y a-t-il des problèmes de santé dans le ménage? Une large place est laissée pour que tous ces problèmes soient retranscrits. C'est-à-dire que le travailleur social a des plages où il peut s'exprimer, où il peut se laisser aller sur la situation au niveau de la santé de la personne, comme il a pu se laisser aller au niveau des papiers s'il s'agissait d'un étranger. Le ménage bénéficie-t-il d'un suivi spécifique au regard de la santé? Si oui, quel type de suivi est coordonné de l'organisme chargé du suivi? Ensuite, le fichage continue par la situation du ménage au regard de l'hébergement. Les raisons qui amènent le ménage à faire une demande auprès d'un hébergeur social. Les attentes du ménage et ses projets. Logement, famille, emploi administratif. Puis à la fin, le travailleur social qui recueille la demande doit donner son évaluation. Quelles sont les capacités du ménage et les difficultés espérées? Repérées. Bon, effectivement, le travailleur social, s'il fait son travail correctement pour l'État, eh bien, va vraiment complètement ficher ces personnes. Quels sont les freins actuels au logement autonome? Quels sont les domaines, aspects devant être travaillés en CHRS, en centre d'hébergement et de réinsertion sociale? À noter que le travailleur social peut donner à chaque page autant de commentaires qu'il veut sous la rubrique bloc-notes. C'est assez impressionnant. 9 pages pour ficher les gens et ensuite ça part, c'est informatisé après, hein. C'est peut-être pour l'instant pas uniformisé au niveau national, mais ça va l'être. Voilà. Donc je vais vous parler de fichiers, je vais vous parler un petit peu des fichiers de l'éducation nationale, puisque, comme vous le savez, ces fichiers sont sécurisés, d'après ce que dit le ministère de l'Éducation nationale, en particulier bas élèves. Vous savez que bas élèves, tous les directeurs et directrices d'école ont une clé, la fameuse clé OTP, qui permet d'ouvrir le fichier bas élèves et de renseigner la base, et d'y entrer donc tous les données de leurs élèves. Alors ce qui est important à savoir, c'est cette clé OTP, c'est un truc qui veut dire... One time password, ça signifie mot de passe à usage unique. C'est-à-dire que c'est la sécurisation au max. C'est-à-dire que le mot de passe n'existe que pour une seule fois. Et il change toutes les minutes. C'est vraiment prodigieux. Et tout ça, c'est, ce système a été produit par une société américaine, RAS Securid, qui vient d'annoncer avoir subi une cyberattaque sophistiqué, qui a permis aux attaquants d'extraire certaines informations relatives à ce système d'authentification forte. Parce que cette société américaine, c'est elle qui, entre autres, en France, eh bien, fournit Air France, l'éducation nationale et aussi bien d'autres clients. Il y a 40 millions d'employés qui utilisent quotidiennement cette technologie et qui finalement, eh bien, n'est pas du tout sûr puisque la société pense aujourd'hui que les informations dérobées peuvent réduire l'efficacité de ce système. Voilà. Donc ça fait sourire, hein, on nous balance tout le temps que bas élèves, c'est personne pourra y intervenir, etc. Bon, on sait depuis le début que de toute façon la sécurisation à 100% n'existe pas. C'est comme les centrales nucléaires.
Ah, bah tiens, je viens de penser que les banques utilisent le système OTP pour paiement par carte maintenant. Ils vous filent un numéro, vous pouvez payer par Internet, ils vous filent un numéro qui change à chaque fois.
Alors... voilà, donc bon, voilà, c'est donc pas sûr du tout. Alors justement, je parlais de bas élèves, il y a eu 6 directeurs d'école de Loire-Atlantique qui risquent d'être risquent d'avoir des problèmes avec l'administration. Ils sont défendus bien sûr par le CNRB, c'est-à-dire le collectif national de résistance à bas élèves, qui d'ailleurs invitait sur Internet tous ceux qui pouvaient le faire à envoyer des mails à l'inspection académique de Loire-Atlantique, de Nantes, pour que ces 6 directeurs qui refusent donc de mettre leurs élèves sur bas élèves ne soient pas sanctionnés. La sanction qui arrive et qui est arrivée déjà, c'est le fait que ces directeurs et directrices ne le soient plus, c'est-à-dire qu'ils soient complètement mis de côté. Ou alors, ce qui est plus grave, c'est souvent aussi des retenues sur salaire pour services non faits. Et là, ça peut atteindre des sommes importantes, mais la résistance existe, ouais, mais les gens se sont quand même bien organisés.
Là-dessus, les directeurs avaient gagné, les tribunaux administratifs avaient annulé ces sanctions de retenue sur salaire.
Mais l'administration continue, revient toujours à la charge, etc. Alors, par rapport à justement l'école, où on parlait de fichiers, etc., il y a eu les évaluations en CE1, et il y a eu un appel au niveau des désobéissants qui demandent à ce que les parents n'envoient pas leur môme de CE1. CE1, c'est quelqu'un, c'est des mômes qui ont 8 ans, hein, qui vont donc avoir un examen passé à 8 ans, puisque ce sont des tests d'évaluation qu'on peut retrouver d'ailleurs informatisés après. Ça rentre un peu dans le livret, ça va rentrer dans le livret des compétences tout au long de la vie, dont on nous bassine de plus en plus dans l'éducation nationale. Et c'est grave puisque ça permet finalement à ce que chaque enfant soit fiché dès quasiment sa naissance jusqu'à sa mort. grâce à des compétences. Alors les compétences, c'est vraiment l'usine à gaz qui va permettre surtout au patronat de pouvoir avoir la main d'œuvre espérée à telle ou telle période du développement du capital. Là, je crois que il y a des gens aujourd'hui qui luttent contre ce livret des compétences, qui refusent de le renseigner. Actuellement, au niveau du lycée, il est simplement expérimental. Au niveau du collège, par contre, il est obligatoire à partir de cette année, en particulier pour passer le brevet des collèges. Dans les écoles primaires, c'est pareil, ça va avoir lieu. Et ça commence donc par des évaluations en CE1, donc dès l'âge de 8 ans. Alors sachez quand même qu'il y a quand même des désobéisseurs qui justement refusent de faire en sorte que ça se fasse. Alors il y a eu un appel aux parents parce que les instituts qui refusent en CE1 de faire ce genre de choses risquent d'être sanctionnés. Par contre, si les parents n'envoient pas leur môme ce jour-là à l'école, eh bien l'évaluation, elle est foutue en l'air.
Ouais, donc c'était parce qu'il y en a une en CE1, je crois, et puis il y en a une en CM2, c'est pas ça.
C'est ça.
Et la dernière évaluation, c'était retrouvée sur le net quelques jours avant qu'elle soit passée.
Qu'elle soit passée. Ouais.
Et donc l'éducation nationale a tout fait pour que ça soit retiré. Mais bon, les gens étaient malins, ils pouvaient l'avoir déjà enregistré depuis plusieurs jours.
Ouais, alors ce qu'il faut savoir, je sais pas le papier là, mais le texte des désobéissants est intéressant puisque il n'y a pas que le fichage, il n'y a pas que le livret des compétences, il y a aussi le fait que vont être évaluées les écoles, donc la concurrence entre les écoles, vont être évaluées les instituts, la concurrence entre les instituts. On est dans un système vraiment...
Comme sont déjà évalués les lycées.
Voilà, tout à fait.
Au niveau des résultats au baccalauréat, qui ne veulent rien dire. Puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas comparer, par exemple entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Dans l'enseignement privé, quand on est à peu près sûr que la personne n'aura pas le bac, on la vire. Voilà. C'est ça aussi l'histoire de concurrence. Mais il y a aussi effectivement, puisqu'il y a de plus en plus une autonomie des établissements, il y a une concurrence qui se fait déjà entre les établissements pour avoir soi-disant les meilleures formations possibles, et bon, on sait ce que ça donne.
Et ça, dès quasiment la maternelle.
Oui.
On va peut-être faire une pause musicale, à moins que... Oui, on va faire une pause musicale.
Voilà.
Comme un maboule à 53 km heure. À ta droite, quelques vaches. À ta gauche, un champ en fleurs. Tu n'as pas vu derrière le rouge pavot, zèbre et le jaune, le gris robot flasheur. Alors, garde ton auto, prends ton vélo et chantons tous en chœur.
Tous en vélo. Dans la rue, y a plus d'auto. Tolérance zéro. Quand tout va à volo.
Petit verre de trop,
mais pas du tropicon.
Pour fêter la réussite sociale de ton ami Pierrot,
prête-moi ta plume pour écrire un mot.
Ne croise pas sur ton chemin, dans leur fourgon, les marchands de ballons tourneront. La prochaine fois, et pendant au moins 6 mois, t'iras au troquet en vélo.
Tous en vélo. Dans la rue, y a plus d'auto. Tolérance zéro. Quand tout va à volo. Tous en vélo. Dans la rue, y a plus d'auto. Tolérance zéro.
vapeur qui monte près de toi. Je connais ce gars, c'est Bob le Rasta.
Sympa, il te fait tirer trois petites là.
C'est son split de ganja.
Waouh, mais que contrôle, baisse à l'hiver. Près des fonds capillaires, claque la portière, Albert. Ton voyage en auto s'arrêtera là, 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 là.
Tous en vélo, dans la rue y'a plus d'auto. Tolérance zéro, quand tout va à volo. Tous en vélo,
tous en vélo,
dans la rue y'a plus d'auto.
Plus d'auto.
Tolérance zéro, quand tout va à volo.
On va parler un peu maintenant d'une loi qui est en train de passer sur la psychiatrie. Ça reforme un peu, ça modifie un peu la loi du 27 juin 1990 qui donnait deux possibilités, et qui donne encore deux possibilités pour hospitaliser une personne sans son consentement, soit l'hospitalisation d'office à la demande du préfet en cas de menace sur la sécurité des personnes, ou alors carrément l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Bon, ça va toujours exister, évidemment, mais la loi qui est en train d'être votée, qui a été déjà votée à l'Assemblée, puis elle a été votée au Sénat, elle repasse à l'Assemblée courant mai, et puis elle passera définitivement au mois de juin. Alors, il y a des résistances en France par rapport à cette loi, en particulier de tout le milieu de la psychiatrie, qui se sont organisés. Alors, sur le site, c'est facile, collectifpsychiatrie.fr, vous avez toutes les informations, du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire. Alors, ce collectif a organisé des tas de rassemblements, en particulier le dernier devant le Sénat. Avant, c'était dans le mois d'avril, ils avaient organisé aussi des assez gros trucs en région parisienne, et avec, ils se voulaient unitaires, c'est-à-dire vraiment ils essayaient de faire en sorte qu'au niveau qu'ils prennent appui par rapport à des politiciens qui soient sénateurs, soit députés, et en fait ils doivent s'apercevoir aujourd'hui que ça n'a pas marché, c'est moins qu'on puisse dire, puisque la loi a été votée au Sénat. Alors après on apprend que les sénateurs du centre ont trahi ce qu'ils avaient dit. Bon, quelqu'un du centre qui trahit, c'est pas une nouveauté, c'est moins que l'on puisse dire. Souvent, des fois, c'est les socialistes. Alors, les gens du centre, je vous en cause pas. C'est ainsi que ces sénateurs centristes avaient dit au collectif qui résistait, des 39 contre la nuit sécuritaire, qu'ils feraient en sorte que les soins ambulatoires sans consentement ne figure pas dans cette réforme de cette loi du 27 juin 1990. En fait, ils y figurent bien. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit tout simplement qu'une personne pourra être soignée sans son consentement chez elle. C'est nouveau au niveau de la psychiatrie. Ça veut dire que, eh bien, l'État va faire des économies au niveau de la psychiatrie, puisque ces gens-là ne seront plus dans un hôpital à psychiatrie. Non, ils pourront être soignés chez eux. En particulier, s'ils sont dangereux, on leur mettra, soi-disant dangereux, on leur mettra tout simplement un bracelet électronique pour les surveiller. Il y a tout un truc dans la société actuelle contre la folie. En particulier au niveau du pouvoir, qui fait en sorte qu'on est entré dans une période sécuritaire qui touche tous les domaines. Hein. Il n'y a pas que la délinquance, mais il y a aussi la folie, il y a tout qui fait qu'il y a de plus en plus de lois qui tombent et qui sont de plus en plus répressives. Alors c'est soins ambulatoires sans consentement, ça va être nouveau, ça pourra être décidé d'ailleurs par le préfet en cas de nécessité impérieuse au niveau de la sécurité. Il faut savoir aussi que l'hospitalisation d'office aujourd'hui, je crois que j'en avais parlé à cette antenne, quand il est très difficile de s'en sortir, puisque maintenant, eh bien, les psychiatres ont de moins en moins de pouvoir, c'est le préfet qui décide. Jusqu'à encore quelques années, les préfets acceptaient que, sous l'avis médical, eh bien, cet avis médical devait primer et le préfet eh bien signait donc le papier faisant en sorte que la personne pouvait se sortir de cette hospitalisation d'office. Maintenant, eh bien, faut savoir que ça peut durer des années. Hein. Pendant des années, il y a les psychiatres qui peuvent demander la libération de quelqu'un qui est en hôpital psychiatrique. Je dis libération parce que les hôpitaux psychiatriques sont de plus en plus des enfermantes. Il y a de plus en plus de clés, de portes fermées. Et maintenant, eh bien, le préfet ne veut plus prendre de risques à cause tout simplement d'événements médiatisés et surmédiatisés où le pouvoir, et en particulier Sarkozy, avait dit clairement que si il savait qu'un préfet avait signé la fin d'une hospitalisation d'office de quelqu'un qui était devenu dangereux, eh bien, il interviendrait contre ce préfet. Donc, bon, ça signifie qu'on est vraiment dans une société de plus en plus sécuritaire.
Alors, on donne de plus en plus le pouvoir, effectivement, au préfet, au niveau santé, puisque si vous avez suivi là, le texte de loi sur l'immigration là, qui vient d'être voté, maintenant, pour avoir le statut d'étranger malade, c'est le préfet qui va prendre cette décision, et lui seul ne consultera plus le médecin inspecteur de la DAS, comme c'était le cas avant.
D'accord.
Voilà, donc on risque d'y avoir
des sacrés surprises.
Oui, voilà.
Voilà, alors que dire encore? Il y a aussi le fait que on sait très bien que dans les prisons actuellement, il y a beaucoup de détenus qui sont des gens qui souffrent de maladies psychiatriques. Et que jusqu'à encore, il y a encore quelques années, c'était possible de les faire hospitaliser en hôpital psychiatrique quand ils faisaient une crise grave. Maintenant, c'est quasiment impossible. Quand quelqu'un est incarcéré et pique une crise de folie, eh bien, c'est clair qu'il ne sort pas de la prison par peur, tout simplement, de l'évasion. Évidemment du pouvoir et le préfet le maintient bien souvent dans les locaux de la prison. Voilà, je crois que c'est une situation à décrire aussi qui peut nous échapper totalement lorsqu'on n'a pas tous ces problèmes. On va faire une pause musicale, allez.
Allez, la dernière. Alors ce soir, toutes les chansons s'extraient d'un même album. C'est le groupe Casareccio. C'est un disque autoproduit. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour se le procurer, faut qu'ils aillent sur le site www.casareccio.net. Et puis, comme ça, ils pourront peut-être se procurer ce disque. Voilà, c'est des copains. Et, donc, on leur fait un peu de pub.
Rien,
plus rien.
Quand y aura plus d'eau dans ta gourde, t'auras grand soif, mon vieux copain. Quand y aura plus de fuel dans le pipeline, tu traîneras plus ton maudit char dans tous les coins. Rien,
plus rien.
De panique sur le Nasdaq, plus une seule goutte de coco, chômage technique sur le tarmac, hôtesse de l'air sur le carreau. Quand il n'y aura plus rien de rien. On sera tranquille, on sera si bien.
Thank you. zéro paquebot pour trimballer les bobos. Aucun cargo pour les épices, le cacao. Ni d'aéroports internationaux, ni de charter pour virer les clandos. Viens, je t'emmène dans mon char à voile. Souris, on survole la planète folle. Épaule fondue, fond de l'Europe. Un archipel, regarde les cratères éteints de l'époque post-industrielle. Et les hautes montagnes de charbon chinois, plus haut, bien plus haut que les hauts plateaux de Lhasa. À chacun son Himalaya, 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 à chacun son Himalaya.
Oui, alors avant de se quitter, tout de même, une nouvelle assez bonne au niveau de tous les refus du fichage ADN. Et il y a de plus en plus de gens qui se font relaxer. Il y a de plus en plus de gens qui sont, quand ils sont condamnés, c'est extrêmement très léger, quelques centaines d'euros. Beaucoup sont relaxés, comme je le disais. Alors, ce combat continue depuis ferme contre ce fichage. Généralement, quand les gens gagnent, c'est sur la base du fait qu'ils n'ont pas encore été condamnés, définitivement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quelquefois, ils ont été condamnés sur des faits qui ne sont pas encore listés par rapport au fichage obligatoire. Et puis, troisièmement, il y a de plus en plus d'argumentations qui sont évoquées, dont on avait parlé ici à cette antenne, concernant justement le fait que l'ADN, eh bien, c'est loin d'être la panacée, puisqu'il y a de plus en plus de biologistes qui nous apprennent que la situation de l'ADN, qui est soi-disant non traçante, eh bien, le devient de plus en plus, et qu'on peut identifier, grâce à ce fichage, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Alors, on y reviendra certainement. Une dernière chose, je crois que la hors-série de Courant Alternatif est en marche. Il s'agit de la Ligue de Libération Nationale. C'est un hors-série commun avec le journal Offensive. Donc vous pouvez le rencontrer dans les kiosques, puisque ça sera, étant donné qu'il est commun avec Offensive, il sera dans les kiosques diffusé assez massivement.
On pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Régor. Chaque semaine, sur les collègues Gary Montpellier, Canassu à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Et Régor, une parole anarchiste communiste.